Bonjour à toutes, Guy Bedos.
Il est prof, lui.
Oui, bah, c'est. T'inquiétez pas, c'est moi quand même le plus impressionné des deux.
C'est vrai, mais je vous comprends.
Dites, je suis prof, mais en même temps, vous-même, vous témoignez et publiez dans une collection qui est dirigée par un universitaire de renom qui s'appelle Jean Viard.
Oui.
Voilà.
Qui est Il lui arrive d'être sympathique.
Collègue, professeur de sciences politiques aussi. Voilà.
Bien fait pour lui.
Guy Bedos, est-ce qu'on a le droit de donner votre âge? Je ne sais pas, ça se fait, ça?
Je ne l'ai pas, je n'ai pas honte.
79 ans, vous êtes né le 15 juin 1934.
Et je vous emmerde aussi.
Et je sens que ça va être bon, là. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le déroulement, quand même, si vous voulez bien.
Oh, j'ai le droit de dire des vacheries à un prof, j'adore.
Vous étiez hier soir à côté de Bordeaux,
dans un spectacle. C'était très agréable.
Et pour votre spectacle qui tourne, avec lequel vous tournez depuis deux ans, vous étiez à Saint-Loubès.
Oui, deux saisons.
On m'a dit que c'est toujours plein, tous les soirs, à chaque représentation. Bon, on ne vous présente pas en dehors de ce que je viens de dire, simplement vous rappelez dans votre livre, ce qui est un livre d'entretien avec Gilles Van Der Potten, qui est un... journaliste de 26 ans, auquel vous rendez hommage d'ailleurs, dans le texte.
Oui,
et qui est
on a raison de lui rendre hommage parce que c'est quand même lui qui a provoqué ce livre. C'est le fait qu'il ait eu la chance, le bonheur même, de connaître Stéphane Hessel, avec qui je me suis rapproché, je l'avais croisé plusieurs fois, dans des combats communs, en faveur des sans-papiers, des sans-logis, et des sans-voix. Mais Gilles est un garçon de 29 ans qui est extrêmement frais en même temps, mais mature. Et il m'a posé des questions auxquelles je n'ai pas pu résister. Et très franchement, moi, j'ai corrigé mes réponses parce que nous avons travaillé au magnétophone, etc. Et que, d'une certaine manière, une conversation parlée à l'écrit, il vaut mieux réécrire. Et j'ai réécrit mes réponses. J'aime bien corriger ce que je dis. Car, effectivement, l'improvisation, c'est bien, mais c'est parfois insuffisant. Et donc, ce livre lui doit beaucoup.
On vous découvre, même si vous avez déjà témoigné, y compris dans un livre tout à fait touchant qui s'appelait Mémoire d'outre-mer, on vous découvre au début du livre, vous parlez de l'époque algérienne.
Hein, mais oui, je réponds à la question voilà. De Gilles sur l'Algérie, justement. Oui.
Et vous dites finalement, est-ce qu'on ne s'est pas comporté en Algérie comme les Allemands pendant l'occupation? Vous citez cette image, la photo de classe du lycée d'Annaba. Annaba, c'est aujourd'hui, s'appelle Annaba, s'appelait Beaune, c'est à 100 km de la frontière tunisienne, à l'est de Constantine, au bord de la mer. Et vous dites, il y a un seul arabe sur cette photo, il s'appelle Krim Khaldi.
Abdelkrim
Khaldi, il restait
mon
ami.
C'est mon plus vieux copain.
Et donc, finalement, vous dites... on était quelque part, globalement, des salauds en Algérie, c'est ça que vous voulez dire?
Non, je crois que je le dis mieux que vous. Je veux dire que je suis un lecteur de Camus, j'ai une vénération pour Camus, n'en déplaise aux Sartriens qui se seraient glissés dans la salle, et je n'ai fait que reproduire des choses que j'ai lues de Camus sur l'injustice qui a été faite par la France, notamment au niveau de l'enfance, de l'école. Il y avait un arabe en Algérie, dans ma classe de troisième. Et je trouve ça scandaleux. J'en ai la preuve, c'est une photo que j'ai chez moi, dans mon bureau, accrochée. Et Camus l'avait signalé dans ses articles de... L'écho d'Alger, et on en a fait des livres, comme vous savez. Et donc, je viens d'une famille extrêmement disparate, avec des gens très bien, des gens moins bien. Mon grand-père était proviseur du lycée d'Alger, était un humaniste. Ma mère était... d'une certaine manière un peu abîmée par son mariage avec mon père, qu'elle a quitté très tôt. Et je ne vais pas raconter ma vie là, mais ce que je veux dire, c'est que je reviens de loin. car j'ai vécu dans une ambiance de racisme absolu, je le dis dans le livre, et donc je réponds là, pour nos amis qui sont là, à votre question. Je suis maintenant à la Ligue des droits de l'homme, j'ai tendance, je n'ai aucune carte de parti, je n'obéis à personne, je suis un anarchiste d'une certaine manière, un anarchiste courtois, mais un anarchiste, et c'est en ça que j'ai été très lié avec Pierre Desproges, qui lui était un anarchiste de droite. Moi je suis plutôt un libertaire, si on veut absolument classer les gens, et donc mais je reviens de loin, car j'avais honte. Moi, j'ai tendance à expier des fautes que je n'ai pas commises, mais j'avais honte.
La honte, permettez-moi de dire un mot dessus. Vous avez d'ailleurs, vous citez Boris Cyrulnik, qui vous dit « J'ai lu récemment le livre sur la honte ». Ça m'a étonné, vous avez un sentiment de honte parce que vous vous êtes fait réformer pour ne pas partir en Algérie. Expliquez-nous ça, parce que c'est un beau passage. Vous avez carrément, vous dites, j'ai fait une grève de la faim sans le dire, sans le nom. Et finalement, ils ont décidé de me réformer.
Parce qu'ils avaient peur que je pourrisse le moral de tout le régiment.
Vous entendez un médecin qui dit à son collègue, c'est un comédien, il va nous pourrir tout le régiment, il faut mieux le réformer. Et vous avez éprouvé une honte. Vous pouvez nous expliquer?
Oui, c'est-à-dire que j'étais très fier de ne pas aller tirer sur mes amis d'enfance en Algérie. Mais je m'étais aussi attaché au pauvre garçon qui avait été mobilisé de force. Ils s'en foutaient de l'Algérie. C'était pas une urgence pour eux d'aller faire la guerre et de risquer leur peau en Algérie, et de pire, de risquer d'être enrôlé par Monsieur Massu, Le Pen, et d'autres, Bijard, etc., qui étaient des généraux, et sans parler de l'OAS et de tous ceux qui étaient porteurs de cette idée de l'Algérie française, à laquelle moi j'ai résisté, tout français que je sois, bien que d'origine andalouse, par ma grand-mère qui s'appelait Josefina Sanchez.
Dans un très beau film d'ailleurs, où vous jouez, c'est un de vos premiers rôles, où vous jouez un jeune soldat.
Pistonnet.
Le Pistonnet.
Film de Claude Berry.
Oui, très très beau film. Oui.
Bref, et donc voilà, et c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer une femme qui a disparu depuis, mais voilà, qui s'appelait Finouche, on l'appelait Finouche. Ma mère m'avait mis en pension chez elle dans une ferme de Kouba, qui est un village que Camus a habité, et elle m'a appris à lire, à écrire, à compter, et les droits de l'homme. Elle m'a appris les droits de l'homme, et le premier gouvernement auquel j'ai résisté, ça a été celui de mes parents. Et donc, toute ma vie s'explique par ça, car je n'ai pas tué l'enfant que j'ai été, et malgré mon âge avancé, que vous avez eu la gentillesse de rappeler à chacun, vous allez me faire rater des occasions de séduire certaines femmes.
C'est pas sûr, au contraire.
Non, mais j'aime bien blaguer aussi, parce que là, je commence à me prendre au sérieux, à parler gravement. Voilà, bon, alors, je reviens de loin.
Vous dites, aujourd'hui, il y a plus de comiques, aujourd'hui, que d'humoristes, et Desproges détestait le mot comique.
Oui, en substantif.
Expliquez-nous ça.
Que ça veut dire un comique? Est-ce que Molière est un comique? Il a écrit des scènes comiques, des pièces comiques. C'est un adjectif, comique, c'est pas un substantif, monsieur le professeur. Et donc, je trouve ça terriblement insultant, d'être le comique. Alors, honnêtement, il y a des gens qui prétendent être des humoristes et qui ne méritent pas mieux que comique.
Ah ben voyez, hein, donc oui, ça peut être aussi
oui, c'est bien fait
le
pour
comique
vous.
De service. Oui, alors okay. Par contre, il y a deux humoristes que vous aimez bien, c'est Mink et Attali. Vous dites, si vous voulez vous marrer, écoutez leurs analyses, c'est les meilleurs humoristes du moment.
Oui, je trouve, oui. Oui, j'ai la chance d'être lié à Michel Rocard, et qui m'a envoyé une très jolie lettre d'ailleurs. je le dis parce que ça m'a touché, que moi, d'une certaine manière, je suis dans le rien de mes dus, et tout ce qui m'arrive d'agréable, ben, ça m'est agréable. Et je suis pas blasé. Et donc, Rocard, qui est un ami, que j'ai reçu chez moi, dans mon Algérie de rechange, en Corse, et que, voilà, bien que dragué par Mitterrand à l'époque, je n'ai jamais fait partie de ces courtisans qui, pour se faire bien voir du président, disaient des horreurs sur Rocard. Moi, non, je me bien Mitterrand. J'étais séduit par Mitterrand, c'est vrai. Je suis retombé de haut après, sur le tard du fait que...
On va y revenir. Mais Mink et Attali, alors, pourquoi ils sont si drôles que ça?
C'est parce que c'est ce que j'appelle les slalomeurs politiques. C'est des gens qui sont à droite quand il faut être à droite, à gauche quand il faut l'être. Ils sont extravagants d'opportunisme, tous ces gens-là. Et puis surtout, comment vous dire... Oh, je trouve que je perds du temps à parler d'eux, là. Je cite une phrase de Chateaubriand dans mon spectacle que j'ai corrigée. « Économisons notre mépris eu égard au nombre de nécessiteux. »
Alors, à propos des gens qui souffrent, et à un moment vous dites d'ailleurs, j'ai définitivement rompu avec l'Église catholique... devant une église de dédiée, alors que je parlais avec un SDF.
Je suis un athée très tolérant.
Oui, c'est vrai.
Je respecte.
Ce que vous écrivez sur les riches qui planquent leur argent dans les paradis fiscaux, c'est évidemment d'une étonnante, d'une troublante actualité.
Bon. En effet.
Qu'est-ce que vous inspire, vous en parlez, je pense, dans votre revue de presse dans votre exercice que vous appelez
oui.
de solitude,
oui, presse, oui.
Qu'est-ce que vous inspire cette situation-là, tout à fait d'actualité chaude, de liée à ce monsieur Cahuzac?
Mais c'est tellement loin de moi tout ça. Vous savez, je dis pas mal de choses sur l'argent. Moi, je suis ravi de gagner ma vie plutôt bien depuis des années. Je travaille comme un fou. Je gagne ma vie et puis j'ai une famille et j'ai pu faire une vie agréable. J'ai eu des êtres chers, très chers, à qui j'ai offert une vie. Oui, mais ça ne m'interdit pas de me pencher sur la misère du monde, ça. N'en déplaise à M. Zemmour et à quelques connards de ce genre, j'ai le droit de regarder ce qui se passe dans la vie, j'ai le droit de regarder les gens qui dorment par terre dans la rue par moins 8 dans les grandes villes. J'ai dit ça dans les grandes villes parce que j'ai remarqué que dans les petits villages, parce que je arpente la France dans tous les sens depuis très longtemps, pas seulement la France, mais enfin les pays de la francophonie, je pourrais dire. Et effectivement, dans certaines villes, un exemple au hasard, Paris, c'est d'une violence terrible de voir. Et je trouve incroyable qu'on veuille empêcher les bien-pensants, comme disent tous ces gens. Vous savez, moi, je suis un humaniste, mais né en Algérie, tel que vous l'avez évoqué, je dois autant à Albert Camus qu'à Zinedine Zidane.
Oui, sur la culture du coup de boule. Enfin, c'est quand même un peu dur. Vous dites, j'ai la culture du coup de boule.
Mais oui, il ne faut pas m'emmerder.
Je vous dis déjà. J'ai pas peur parce que dans la même page, vous dites, j'ai arrêté de me battre à l'âge de 20 ans.
Oui, parce que ici, c'est enfin en France, là, chez vous, ça ne se fait pas. Une fois, j'ai cassé la gueule d'un type dans un bistrot. Il y a eu tout de suite la police, alors que nous, les Arabes, et des gens comme moi, on se battait. Puis après, on allait boire un coup. C'était un jeu. Mais c'est vrai que il y a des moments où les mots ne suffisent pas. Je suis en colère.
J'ai découvert que vous étiez gaullophile. Ou de gaullophile.
Mais écoutez, général
vous dites
de Gaulle...
quand même, hein, non, je vais le dire pour nos amis qui sont là quand même, parce qu'on a le droit de vous citer. Vous dites, De Gaulle était une sorte de socialiste chrétien militaire. Encore une fois, à y regarder de près, De Gaulle a été à des moments forts de l'histoire du bon côté, du temps de l'occupation nazie, en allant faire de la radio à Londres, en Algérie, où il a été bien meilleur qu'au Guimolet, qui était pourtant censé être de gauche. De Gaulle était une sorte de socialiste chrétien militaire.
Ah oui, mais je persiste et je signe.
Très bien.
comment dire, je n'aimais pas le gaullisme tel qu'il a été vécu après. Pas, je ne parle pas de Londres, je ne parle pas de l'Algérie, mais il y avait autour du général de Gaulle des gens épouvantables. Mais lui était un honnête homme. Lui était un type très bien et il a eu tout militaire qu'il était. Et je lui dois le respect. Cette loi sur la participation, par exemple, j'y ai pensé parce que je...
Vous étiez à Florange.
Voilà, je suis allé à Florange et je soutiens les sidérurgistes contre le gouvernement de gauche actuel qui nous danse une samba, un pas en avant, un pas en arrière, deux pas sur le côté. Oui, mais ces gens-là sont maltraités par cet Indien. Je suis totalement favorable aux Indiens dans les westerns, mais...
Il avait dit que vous voulez du côté du cow-boy. Vous voulez tuer Mittal, quasiment.
Oui. Enfin oui, mais je veux pas qu'il y ait de preuves, quoi. Donc ne le répétez pas. Mais je le déteste. En plus, il est né le même jour que moi. Et ça, c'est la preuve définitive que l'astrologie n'est pas une science exacte.
Alors, quand Gilles Van Der Potten vous dit « Citoyen Baudos, présentez-vous », c'est pas décliner votre identité, mais c'est « Présentez-vous à une élection », vous dites, page 94, « Je ne pourrais même pas être adjoint au maire d'une petite commune ». Alors j'ai envie de vous dire, mais alors pourquoi vous la ramenez si vous n'êtes pas capable de gérer
Et pourquoi vous la ramenez-vous pour me parler comme ça?
Parce que moi si vous voulez, on m'a demandé de vous poser des questions, donc je vous les pose. Non mais je rigole. Non mais alors, c'est pas une critique qu'on peut vous faire ça en disant finalement, ouais c'est assez facile, c'est pas la gauche caviar, c'est la gauche couscous, c'est ce que vous dites. Mais finalement voilà, s'il fallait se mettre les mains dans le cambouis. C'est plus compliqué.
Pourrais être très bon. Non, mais j'ai fait ça.
Vous êtes certainement très bon, en plus.
Pour vous faire plaisir, mais je. Non, toutes les questions de fric et tout ça, l'économie, tout ça, il faudrait surtout pas me confier un poste pareil dans la politique, mais pour ce qui est des rapports sociaux et tout ça, je pourrais faire des choses épatantes dans ce pays. Ouais. J'appartiens à des.
Vous n'avez jamais été tenté
Non, parce que. Non. Vous savez, un jour. J'ai eu la chance de recevoir Robert Badinter dans ma loge au Cirque d'Hiver où je me venais de me produire. Et Robert Badinter, qui venait de faire supprimer la peine de mort, etc., etc., m'a dit « Guy, vous ne savez pas la chance que vous avez. Vous êtes libre, vous êtes vraiment libre, vous avez le droit de dire tout ce que vous voulez. Il n'y aura pas d'interdiction. » Car moi, je sais comment ça se passe. Quand même, j'ai eu assez d'amis dans la politique qui ont été députés, etc. De leur propre groupe, ils recevaient... Je me souviens d'une fille qui m'avait dit qu'elle était députée, qui m'avait dit qu'elle avait reçu de son chef de groupe « ta gueule ». Là, dans le temple de la démocratie, parce qu'elle disait des choses qui déplaisaient aux gens de son parti. Bon, donc moi qui suis totalement, qui me veux libre de la parole déjà, tout en respectant, ça veut pas dire insulter. Par exemple, j'ai une certaine sympathie pour Jean-Luc Mélenchon sur un aspect de son personnage, mais vraiment,
Lequel aspect du personnage? Non, c'est pour comprendre.
Ben d'abord, c'est un tribun magnifique. Je crois qu'il est même meilleur que Jean-Marc Ayrault.
Ça se discute.
Moi, je trouve qu'il est meilleur. Bon. Et d'une part, mais il a des amitiés douteuses, je me serais passé de ses amitiés pour Chavez, qui lui-même avait des amitiés avec Ahmadinejad, avec Bachar el-Assad, tout ça, bon bref, tout ça. Je vais le reprendre en main, Mélenchon, il faut qu'il m'écoute.
Vous faites une belle analyse de sciences politiques, et c'est pas la seule, mais page 105, vous dites « Retour à la revue de presse, c'est quoi la gauche ces temps-ci ?» Point d'interrogation. « Moi, natif d'Algérie, j'aurais tendance à la comparer à un couscous. Avec Hollande dans le rôle de la semoule, Mélenchon dans celui de la harissa, les écolos qui jouent les pois chiches et la barbaque. » C'est vous, c'est moi, c'est nous. Si on veut pas se faire becqueter par le système, allez, tous en cuisine, les militants. les syndicats, les citoyens, vous, moi, nous tous qui voulons, je le dis évidemment avec beaucoup moins de talent que vous, excusez-moi, dans les limites de la crise, que ce soit mangeable, ce dîner qui se prépare à la cantine nationale, pour éviter que ce soit le dîner de con, c'est moi qui rajoute ça quelque part, mais ni trop fade, ni trop épicé, ne pas refaire, on ne va pas refaire 89 et ressortir les guillotines. Par contre, vous dites, une révolution de velours à la Vaclav Havel. Voilà, ça c'est quelque chose mais qui vous semble
mais plus, pardonnez-moi, plus juste. Mais les choses étant ce qu'elles sont, la situation étant ce qu'elle est, ces jours-ci, on ne sait plus très bien, Mme Le Pen va d'une certaine manière toucher les dividendes de ce qui vient de se passer avec Cahuzac et compagnie, et il faut bien dire une certaine forme de, je dirais, de timidité de la part de François Hollande, et là j'emploie un euphémisme, donc
vous dites qu'il faut qu'il arrête les somnifères le matin.
Voilà. C'est de moi, ça.
Oui, oui. Tout à fait. J'ai dit, vous dites, oui.
Oui.
Alors, vous savez qu'ici, à Bordeaux, les Bordelais sont fiers d'un certain nombre de toujours plein de choses, mais il y a trois M, Montaigne, Montesquieu, Mauriac, et vous avez trois M, Molière, Marivaux, Musset, et puis vous rajoutez Shakespeare, et vous dites, ce sont des rebelles. Alors, expliquez-nous ça.
Ben, disons, c'est une thèse que vous me demandez.
Ben oui, on a le temps, là.
Vous savez que j'ai pas mon bac, moi, hein.
Ah bah ça, écoutez,
je me suis contenté d'être intelligent.
C'est tout à fait autorisé de ne pas avoir son bac. Alors, pourquoi vous avez ces trois M dans votre panthéon?
C'est-à-dire que ce sont des auteurs que j'ai fréquentés de très près, puisque je viens du théâtre classique et que, surdoué comme je l'étais, j'ai mis en scène Marivaux, Arlequin, Polype à l'amour, en jouant le rôle principal en même temps au théâtre de l'École nationale d'art dramatique de la rue Blanche que je fréquentais à l'époque, et que j'ai été, en effet, j'étais plus influencé par Molière, Marivaux, Musset, Shakespeare que par Michel Houellebecq.
Mais pourquoi c'est des rebelles? Pourquoi Molière, on peut comprendre. Musset,
Marivaux, si vous le lisez bien.
Oui,
ça n'a rien à voir avec le marivaudage vu par les cons.
Et Musset?
Marivaux, c'est très social, avec des croisements de milieux, la soubrette qui drague le prince et tout ça. Il y a une lutte des classes. Mais Marivaux, c'est le précurseur de Karl Marx.
Enfin, quatrième M, là, oui.
D'ailleurs, Karl Marx faisait appeler Marx Rivaux. Je dis n'importe quoi.
J'ai un ami que je voyais cette semaine là qui me précisait effectivement que vous êtes professeur de solitude au conservatoire.
Oui.
Hein. Il s'agit de Pierre Aknin, je pense que vous connaissez.
Ah bon?
Oui, oui. Alors, ce que vous dites, vous, professeur de solitude, ils n'allaient quand même pas appeler ça One Man Show.
Dans la langue de Molière, c'est
la première. Qu'est-ce que vous enseignez dans votre cours de solitude? Vous dites que vous adorez vos étudiants, ça se passe très bien, vous adorez.
Oui, je ne fais pas d'heures supplémentaires avec mes étudiantes, mais contrairement à certains professeurs que j'ai connus dans ma jeunesse.
Ah bon?
Oui, je ne citerai pas les noms, mais j'ai connu des types dégueulasses qui cherchaient à sauter toutes les filles qu'ils avaient dans leur classe, moi pas. C'est elles qui me courtissent.
Parfait, et alors, donc, ce qui fait qu'à la fin, maintenant, il n'y a plus de solitude à la fin, mais qu'est-ce
qui... Oui, mais je le rapporte, non, mais c'est-à-dire qu'il y a des élèves du conservatoire, qui est une école d'État très importante, etc., et qui ont envie d'explorer, d'une certaine manière, toutes les possibilités de faire ce métier si difficile. Et donc, l'actuel directeur du conservatoire, donc j'ai plus le nom soudain. Bon.
Pas grave.
Pas grave, non. Il est juif, c'est pas grave. Je suis pas antisémite, ça sur vous. Non, mais je dis n'importe quoi pour faire sourire. Il m'a demandé d'aider certains jeunes gens, mais pas seulement à partir de... Par exemple, il n'y en a aucun qui a osé sortir une ligne de mes sketchs et tout ça. Il y a d'autres sketchs, mais ils abordent des proches, ça. Ils n'osent pas m'aborder moi parce qu'ils ont peur. Alors que je ne fais pas peur du tout, moi. Je ne cherche pas à faire peur. Je ne suis pas un professeur, je suis un passeur, c'est tout. Je suis un ancien élève qui... conseil qui peut aider certains nouveaux élèves. Et donc, mais nous travaillons aussi des auteurs qui n'ont rien à voir avec le show business. Moi, show business, je refuse. Moi, je suis dans le show, pas dans le business. Mais, comment dire, on aborde des textes de Pinter, de Tchekhov. Il y a des monologues, beaucoup, dans le théâtre sérieux, si j'ose dire. Enfin, encore que Tchekhov, Pinter, ont des choses drôles aussi. Bref, voilà. Mais bref, sous forme de monologue. Voilà, ce qui est un art du théâtre. Moi, je suis entré, j'étais reçu dans mon école dans un monologue. Ça anticipait sur la suite de ma carrière de Racine. La seule pièce comique que Racine ait écrite, Les Plaideurs, dans le monologue de Petit Jean, un valet de comédie dans Les Plaideurs. Et ce que je veux dire, c'est un art de parler aux gens de face comme ça. Là, je suis un peu intimidé parce que j'ai encore une fois l'impression de ne pas être dans mon job habituel et de faire une conférence, ce qui ne me va pas. Mais voilà, j'ai beaucoup de plaisir à... Je l'ai eu avec ce jeune homme, Panther Poupten. Je l'ai avec mon fils Nicolas, je l'ai avec tous mes enfants, ma fille Victoria, etc. J'essaye de faire tomber aussi les barrières de génération. On peut se parler.
Vous le dites très bien dans la dernière partie du livre. Oui. Et alors d'autant que vous avez cette phrase qui est un peu mystérieuse. Vous dites sur la naissance, hein, sur l'enfance. Je crois que c'est page 135, si j'ai bien noté.
Mais oui, vous avez travaillé.
Ah, oui, j'ai travaillé. J'ai pas envie de me faire avoir. Enfin, même temps, vous allez faire ce que vous voulez de moi, si je puis dire. La naissance n'est pas fatalement une bonne nouvelle pour un bébé. La naissance n'est pas fatalement une bonne nouvelle pour un bébé.
Ben oui, c'est vrai.
Mais c'est terrible.
Ça rejoint la phrase de Suran, je crois, de l'inconvénient d'être né.
Oui, c'est le titre d'un.
N'est-ce pas ?
Un des titres de
non, parce que j'ai pas fait une grande carrière d'école, mais je suis assez cultivé.
J'ai l'impression, oui, on dirait. Oui. Hein, oui. Voilà. Ouais, puis la culture, en plus, c'était compliqué à définir, hein, évidemment.
Mon université, c'était ma bibliothèque.
Bon, ben voilà, vous êtes ici dans une librairie, je vous le rappelle. Page 107, vous dites effectivement Hollande, en gros.
Vous y allez fort quand
même. Oui, j'ai voté pour lui, mais j'ai surtout voté contre Sarkozy.
Ah, ça c'est vrai. J'ai toute ma vie voté contre plutôt que pour. J'ai aidé Mitterrand à se faire élire, d'une certaine manière. Mitterrand lui-même m'en a remercié en privé, mais c'était contre Giscard. Je ne pouvais pas supporter Giscard. J'avais l'impression que tous ces aristos qui avaient pris le pouvoir, Poniatowski, tout ça, on ne savait plus dans quel régime nous étions. Donc, sauf que Mitterrand m'a beaucoup déçu.
Vous dites qu'il a cherché à vous acheter par la Légion d'honneur.
Oui, et j'avais répondu.
Alors, répondez sur le clown.
Je suis de ces clowns qui préfèrent le rouge qu'on met sur son nez à celui qu'on accroche à sa boutonnière. Il a beaucoup aimé, il paraît, et il est mort.
Et à propos de l'affaire Mera, vous avez une drôle de réaction, vous allez nous expliquer ça. Vous dites, après la sinistre affaire Mera, je suis pour la fermeture de toutes les écoles religieuses.
Ça vous paraît mystérieux ?
J'ai pas dit mystérieux, j'ai dit drôle, au sens d'étonnant. Alors expliquez-nous
ça. Je pense, oui, et je prends le risque de déplaire. Mais je pense que... D'une certaine manière, il y a des lieux pour la religion, l'église, la mosquée, la synagogue, et que d'une certaine manière, alors qu'on parle de communautarisme, qu'on essaie de ont, qui ont, ben, les pouvoirs publics, essaient de lutter contre cette violence qui embrase toute une partie de l'Orient, le conflit israélo-palestinien, au nom de Dieu. Dieu est amour, dit-on. Dieu est à mort, surtout. Eh bien, je pense qu'effectivement, que Merah, Mohamed Merah, qui n'est pas mon arabe préféré, j'allais dire Dieu et son âme, et abattu des jeunes juifs dans une école juive pour venger les petits Palestiniens qui se sont fait tuer des enfants, c'est une horreur absolue. Et d'où que viennent les balles, c'est une horreur. Et donc, c'est vraiment assassiner l'innocence. Donc, je pense que, contre plusieurs avis que j'ai eus, parce que c'est une idée que j'ai déjà exprimée à la télévision, et je suis tombé sur un type qui avait des responsabilités dans je ne sais plus quelle communauté. Je crois qu'il était au CRIF. Voilà, oui. Au CRIF. Et il m'a dit que d'une certaine manière, pour les juifs, tout du moins, l'école religieuse les protégeait d'antisémitisme. Moi, je veux bien, mais non. Moi, je trouve pas. Je trouve pas la preuve. On va les tuer dans leurs écoles. Je pense que moi, j'ai eu une enfance dans la religion. J'ai servi la messe. C'était mes débuts au théâtre. Et donc, j'adorais le costume, surtout pour les enterrements. Et quand je voyais ces femmes qui avaient trompé copieusement leur mari et qui voulaient se jeter dans la tombe, pour moi c'était déjà le début du vaudeville, mais morbide. Mais donc je me suis assez vite éloigné de tout ça. Je me souviens d'avoir été à la sortie d'une église par hasard, rencontrant un SDF,
un copain, oui, à vous,
oui, qui avait perdu
son argent,
une main d'abord. Oui, ça je l'ai pas dit dans le livre parce que ça faisait beaucoup, mais il s'était fait couper la main après des blessures qu'il avait eues, qui lui avaient été infligées par des toxicomanes qui voulaient lui piquer son fric. Et donc, je lui avais dit d'ailleurs, ah, bah, tu n'as même plus ta main pour mendier. Et j'étais devant une église. Il n'y a pas un, sortant de l'église du dimanche, à Neuilly, il n'y a pas un catholique qui était là et qui soit venu à la messe, qui s'était proche de nous. Ils n'ont pas donné un franc ou un euro. Et moi, il me regardait comme si j'étais Staline ressuscité. J'étais le rouge à Neuilly. Pauvre con.
C'est vous qui avez choisi le titre « J'ai fait un rêve »
C'est vous Oui, en hommage à Martin Luther King et surtout à un ami que ma grande sœur Simone Signoret m'avait fait connaître à Saint-Paul-de-Vence, qui était James Baldwin, un écrivain noir réfugié en France à l'époque du macartisme et d'une certaine gouvernance américaine. Je sais plus, c'était avant Nixon.
Eisenhower. Non, encore avant.
Non.
Quand Nixon non, était vice-président d'Eisenhower.
Pas mal.
Avant Nixon, c'était Johnson.
Oui. Voilà. Et c'était l'époque où on empêchait les Noirs de monter dans les mêmes autobus que les Blancs. Bref, c'était le racisme institutionnel. Et il s'était réfugié en France et il a écrit des livres ici, en France. Et donc, mais il était l'un des lieutenants du pasteur Martin Luther King, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui fait partie de la résistance américaine. Et quand je vois Obama noir, un noir à la Maison Blanche, esthétiquement d'abord, je trouve ça épatant, et sur le plan des couleurs. Et puis, même s'il est décevant, par moment, Obama.
Vous dites quand même que la droite américaine, c'est l'extrême droite absolue.
Oui, la droite américaine, ben oui, ce Mitt Romney, là, on parlait de la fin du monde, mais s'il avait été élu, c'était lui, la fin du monde. Il aurait été un danger pour la planète entière.
Avant de donner la parole pour deux, trois questions à la salle, puis après les gens vont venir discuter avec vous pour la signature, est-ce que vous avez vu Les Anonymes sur Canal+
Attendez, ça me dit quelque chose.
C'est sur l'affaire, l'affaire Erignac, l'assassinat d'Erignac.
Bien sûr.
Vous l'avez vu?
Oui.
Alors, vous faites un vibrant appel ou témoignage en faveur d'Ivan Colonna, surtout sur le principe des droits de la défense et oui. de la nécessité de la défense.
Oui,
vous
j'ai des personnages dans ma famille qui ont été avocats, bâtonniers, etc. Et ce que j'ai pas fait mon droit, mais j'ai retenu que le doute doit profiter à l'accusé. Et dans cette affaire Colonna, en Corse, on a choisi un coupable, Monsieur Sarkozy, oh, que je le regrette, celui-ci, et qui, lui, a affaire à un juge d'instruction à Bordeaux. La privée, Colonna, de la présomption d'innocence, puisqu'il a dit, nous avons arrêté l'assassin du préfet Erignac. Et, or, c'était pas la peine à ce moment-là de faire des procès. Ils en sont au troisième, il va y avoir un quatrième procès en avril. Ils n'arrivent pas, mais pour le moment, il est en tôle à perpétuité. Et j'essaie de me servir d'une certaine relation que j'ai avec Madame Taubira, l'actuelle ministre de la Justice, à qui je veux du bien, et qui me veut du bien. Mais c'est difficile, difficile, parce que d'une certaine manière, pour revoir tout ça, ça a été un procès qui m'a rappelé, qui m'a rappelé ce que je sais, parce que je ne l'ai pas vécu, les procès qui se faisaient, les tribunaux...
Spéciaux pendant la guerre d'Algérie ?
Non, pendant l'occupation allemande. Et je trouvais
ça... Les sections
ça...
spéciales. Les sections spéciales, ça s'appelait.
Comment ?
Les sections spéciales, ça s'appelait.
Voilà. Mmh. Merci, monsieur.
Bon, écoutez, merci à vous. Oui, finalement, on a quand même réussi.
Mais oui. Hein, on se parle comme deux êtres humains.
Et pratiquement, c'est étonnant.
Malgré tout ce qui nous sépare.